quelquefois tenté de retrouver cette terre engloutie un peu partout sur la planète, d'ailleurs du Sahara jusqu'en Antarctique, eh bien il y a un chercheur français qui affirme maintenant avoir découvert l'Atlantide exactement là où Platon l'avait situé 400 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire juste à l'ouest du détroit de Gibraltar, quelque part entre l'Espagne et le Maroc actuel. Le géologue et préhistorien français donc s'appelle Jacques Collinat-Girard. Il vient de voir sa découverte publiée dans les comptes rendus de l'Académie des sciences de France. Dominique Lapointe l'a invité en studio à Aix-en-Provence. Mais écoutons d'abord Platon lui-même.
Il y avait une immense puissance qui marchait insolemment sur l'Europe et l'Asie tout entière, venant de notre monde situé dans l'océan Atlantique. On pouvait alors traverser cet océan, car il s'y trouvait une île devant ce détroit que vous appelez, dites-vous, les colonnes d'Héraclès. Or, dans cette île Atlantide, des rois avaient formé une grande et admirable puissance qui étendait sa domination sur l'île entière et sur beaucoup d'autres îles et quelques parties du continent.
Monsieur Collinat-Girard, à Aix-en-Provence, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Collinat-Girard, on vient d'entendre Platon nous décrire un peu toute cette grandeur, ce faste de l'Atlantide, mais ce n'est pas là l'origine de vos recherches. Vous n'êtes pas un chasseur de mythes ou un chasseur de phénomènes ésotériques, là. Ce n'est pas votre genre du tout.
Non, pas du tout, parce qu'au départ, je cherchais simplement à reconstituer le paysage qui existait au détroit de Gibraltar, lors du maximum glaciaire, alors que la mer est à moins 135 mètres sous le niveau actuel. Donc c'est en faisant ce travail que je me suis aperçu qu'à cette époque, il y avait une grande île devant les colonnes d'Hercule, devant le détroit de Gibraltar, un archipel tout autour, et cet archipel au centre d'une mer fermée. Donc c'est ce qui m'a conduit à mettre en rapport cette réalité géologique au texte de Platon, qui relate une tradition venue d'Égypte, qui est retranscrite dans le Timée, mais qui est également aussi, Platon l'a voulu même, amplifié, embelli, pour illustrer l'utopie du célèbre philosophe.
Donc qu'est-ce que ça veut dire, M. Collinat-Girard, comme recherche? Qu'est-ce que vous avez cherché à faire et à partir de quel matériel?
Disons, je travaillais au Maroc, dans le nord du Maroc, et, en préhistoire. Et en préhistoire, quelque chose d'important, c'est le passage qui a pu se faire entre l'Afrique et l'Europe, et aussi dans l'autre sens, bien sûr, donc à l'époque où la mer était beaucoup plus bas. Donc on sait qu'au maximum glaciaire, il y a 19 000 ans, la mer était à moins 135 mètres sous le niveau actuel. Donc il est très facile de reconstituer le paysage de cette époque en prenant une carte marine et en repassant la ligne de sonde, la courbe de niveau des moins 130 mètres.
Et pourquoi un intérêt pour ce passage de Gibraltar? C'est important en préhistoire?
On sait que l'homme est apparu en Afrique, par exemple, et de tout temps, les préhistoriens se posaient le problème de la façon dont l'homme est arrivé en Europe. Ça, c'est pour des périodes extrêmement anciennes. Mais en période récente également, parce qu'au Maroc, on a des cultures préhistoriques, et on ne sait pas exactement d'où elles viennent. Donc il est intéressant de savoir si elles ont pu venir du nord, à travers l'étroit de Gibraltar, ou est-ce que c'était impossible.
Si vous le permettez, M. Collinat-Girard, nous allons écouter à nouveau Platon, ce qu'il a à nous dire sur l'Atlantide dans ses textes du Timée.
C'est donc de vos concitoyens d'il y a 9000 ans que je vais vous découvrir brièvement les lois, et parmi leurs hauts faits, je vous dirai le plus beau qu'ils aient accompli. En effet, nos écrits rapportent comment votre cité anéantit jadis une puissance insolente qui envahissait à la fois toute l'Europe et toute l'Asie et se jetait sur elle du fond de la mer Atlantique. En effet, en ce temps-là, on pouvait traverser cette mer. Elle avait une île devant ce passage que vous appelez, dites-vous, les colonnes d'Hercule. Cette île était plus grande que la Libye et l'Asie réunies, et les voyageurs de ce temps-là pouvaient passer de cette île sur les autres îles, et de ces îles, ils pouvaient gagner tout le continent, sur le rivage opposé de cette mer, qui méritait vraiment son nom. Car d'un côté, en dedans de ce détroit dont nous parlons, il semble qu'il n'y ait qu'un havre au goulet resserré, et de l'autre, au dehors, il y a cette mer véritable, et la terre qui l'entoure, et que l'on peut appeler véritablement, au sens propre du terme, un continent.
Monsieur Collinat-Girard, Platon nous parle d'une île, et cette île, vous l'avez retrouvée.
Disons, effectivement, devant le détroit de Gibraltar, il existait une île qui est engloutie il y a 9000 ans, donc c'est exactement en plus la date que donne Platon dans son texte, ce qui est assez troublant. Ensuite, il dit que cette île était au centre d'une mer plus ou moins fermée, et c'est aussi ce qu'on retrouve dans la réalité géologique. Alors, il dit aussi que les gens pouvaient passer facilement d'île en île pour gagner le continent qui entourait cette mer. Et effectivement, on pouvait passer d'île en île pour traverser cette mer et gagner les continents européens et africains qui se refermaient à l'ouest, pratiquement, pour former une mer intérieure relativement importante, parce que ça fait à peu près 80 km de long sur 20 km de hauteur. Donc ça fait une espèce de petite Méditerranée miniature qui faisait ça en fait avec le vrai océan Atlantique. Donc,
mais Platon parle d'une île plus grande que la Libye et l'Asie, et ce n'est pas ce que vous avez retrouvé. Votre île, elle est beaucoup plus petite, là. Oui, 15 km quoi, sur 5, c'est ça, environ?
Oui, disons qu'il y a un problème de dimension. Mais bon, déjà, on peut noter que, d'après tous les spécialistes de l'Antiquité, nous disent que les Grecs maîtrisaient très mal les dimensions géographiques. Ils n'ont aucun moyen de les mesurer. Donc, leur appréciation était normalement assez fantaisiste. Bon, ça, c'est une chose. Ensuite, si on considère l'île elle-même, effectivement, c'est pas très grand, 15 km sur 7. Par contre, si on considère tout l'archipel qui entoure cette île, c'est déjà beaucoup plus important. Et si on considère toute la mer intérieure qui comprend ces îles, ça fait vraiment un petit monde qui, à l'époque, pouvait être quelque chose d'important et qui a dû marquer les mentalités quand ça a disparu. Et il y a aussi un phénomène, quelque chose de géologique qui est évident, c'est-à-dire que c'est impossible qu'il y ait eu un effondrement d'un continent grand comme l'Asie et la Libye réunis devant le détroit de Gibraltar. C'est géologiquement absolument impossible. Donc voilà pour la géologie. Ensuite, pour les phénomènes culturels que décrit Platon, c'est-à-dire une insolente puissance qui marche sur l'Europe et l'Asie, ben on peut se demander finalement si ce n'est pas la transcription très lointaine de ce qui s'est passé dans la réalité donc vers 20 000 ans, ou même un peu avant, 25 000, 30 000 ans, jusqu'à moins 10 000, parce que c'est la période où les hommes modernes, c'est-à-dire nous, en fait, ont envahi complètement l'Europe, ont envahi les côtes d'Afrique du Nord et ont colonisé le monde en évinçant des populations qui étaient là depuis très longtemps et qui ont disparu assez brutalement finalement. Donc c'est peut-être l'écho lointain de cette extermination de populations archaïques par les populations modernes que trahit ce mythe de l'Atlantide, mais de façon extrêmement lointaine et peut-être un peu transformée aussi donc à la façon des Grecs, parce que les Grecs prenaient les images autour d'eux en fait pour interpréter le mythe.
Eh bien, écoutons à nouveau Platon, monsieur Colina Gérard.
Dans le temps qui suivit, il y eut des tremblements de terre effroyables et des cataclysmes. Dans l'espace d'un seul jour et d'une nuit terrible, toute votre armée fut engloutie. Et d'un seul coup, sous la terre et de même l'île Atlantide s'abîma dans la mer et disparut. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, cet océan de là-bas est difficile et inexplorable, par l'obstacle des fonds vaseux et très bas que l'île, en s'engloutissant, a déposé.
Platon parle de tremblements de terre, de cataclysmes. Ce n'est pas là vos observations, M. Colina Gérard?
Pas vraiment, mais il faut savoir que les Grecs étaient familiers tous les jours de tremblements de terre et d'éruptions volcaniques. Ils connaissaient ça très bien. Donc quand ils interprètent un cataclysme, c'est un peu normal qu'ils mettent des images de volcanisme ou de tremblements de terre. Par contre, il y a un autre cataclysme qui, lui, est mondial, qui a affecté toute la planète, la Grèce y compris, les colonnes d'Hercule aussi, et toute la planète, parce qu'entre 20 000 ans et moins 10 000 ans, on assiste à un réchauffement climatique majeur, une remontée du niveau de la mer considérable, et avec des vitesses de remontée qui, d'après les dernières estimations, pourraient atteindre 4 mètres par siècle, donc 2 mètres dans une vie de 50 ans. Donc 2 mètres en 50 ans, ça se voit, c'est perceptible, ça modifie complètement les contours des côtes. Donc on a pu avoir des submersions sensibles, très sensibles, et sans doute même quelquefois assez catastrophiques, qui ont dû être transmises de génération en génération jusqu'aux Égyptiens.
Les citoyens et la cité qu'hier vous nous avez représentés comme une fiction, nous les transposerons maintenant dans l'ordre du réel. Nous supposons qu'il s'agit de la cité que voici. Les citoyens que vous aviez imaginés nous diront que ce sont ceux-ci, les vrais, nos ancêtres, ceux dont avait parlé le prêtre. Il y aura concordance complète, et nous n'errerons point si nous affirmons qu'ils sont bien ceux qui existèrent en ce temps-là.
Ben disons, Platon, dans son texte, le dit explicitement, c'est-à-dire qu'il va transposer dans le passé l'utopie philosophique qu'il veut illustrer, donc qui se sert de l'histoire qu'on lui a rapportée de cette île engloutie dans la colonne d'Hercule pour bâtir une parabole, effectivement, pour expliquer aux gens quelle serait la société idéale, quelles seraient les qualités de la société idéale. Donc là, ça fonctionne en parabole.
Platon parle, en fait, d'un récit qui date de très longtemps, qui est passé à l'histoire, à la tradition orale, c'est ça?
Ben oui, effectivement, il y a un problème de transmission orale, parce que ça date quand même de 9000 ans avant notre ère, avant Platon. On sait que les Égyptiens ont l'écriture à peu près à partir de 4000 ans, dans le meilleur des cas. Donc ça implique au minimum 5000 ans de transmission orale. Donc c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Comment une tradition peut-elle survivre pendant 5000 ans? Donc ça nous paraît absolument ahurissant a priori. Alors comment, en réfléchissant, on peut expliquer ça? Disons qu'on peut se tourner vers l'ethnologie. Alors, les ethnologues nous disent que dans beaucoup de cultures de chasseurs-cueilleurs actuelles, comme en Nouvelle-Guinée, comme dans d'autres pays du monde, ils ont relevé des généalogies qui sont fiables sur 600 ans, 700 ans, donc à assez long terme quand même. C'est vrai que ce n'est pas 5000 ans. Donc il y a, les ethnologues, mais il y a aussi les préhistoriens qui sont confrontés la plupart du temps à des phénomènes de durée impensables de traditions culturelles. Parce que si on regarde l'art préhistorique européen, l'art des grottes ornées, ça commence à 30 000 ans et ça finit vers 10 000 ans, de 12 000 ans par là. Donc ça implique que pendant plus de 20 000 ans, les gens se sont transmis, génération après génération, les canons principaux, au moins, d'un art qui n'a pas tellement évolué. Donc pendant 20 000 ans de statisme, donc on a du mal à comprendre ça. Dans le même ordre d'idée, paraît-il, en Australie, les aborigènes australiens actuels sont toujours capables d'interpréter des peintures qui ont été exécutées 20 000 ans. Donc vous voyez que des mythes peuvent se transmettre à travers l'art préhistorique, par exemple, pendant des millénaires, ce qu'on a du mal à comprendre d'ailleurs. En préhistoire, il y avait des choses encore plus exceptionnelles. Par exemple, on a certains outils au début de la préhistoire qu'on appelle des bifaces, qui sont des outils de forme très particulière, très régulière, et que l'on a des 1 500 000 ans en Afrique et que l'on a toujours des 300 000 ans. Donc pendant plus de 1 million d'années, les gens ont fabriqué constamment la même chose. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ces gens, ces chasseurs-cueilleurs, ont une notion du temps qui est très différente de la nôtre. C'est-à-dire que leur but explicité, c'est de transmettre les faits de leurs ancêtres, de transmettre leurs techniques le plus exactement possible, et surtout de ne rien changer, puisque changer est en fait une espèce de faute dans ce genre de psychologie. On cherche à reproduire tout le temps les circuits des ancêtres. Donc c'est ce qui peut expliquer peut-être la persistance de cette tradition orale, et qu'elle puisse transmettre à très long terme l'écho de phénomènes géologiques importants, voire catastrophiques, qui se sont produits à la fin du Paléolithique supérieur, en provoquant une rupture dans la société de chasseurs-cueilleurs et en les acheminant vers le monde actuel que l'on connaît.
Eh bien, Monsieur Colina Girard, on vous remercie infiniment pour nous avoir fait redécouvrir cette Atlantide et tous ses impacts donc sur ces civilisations anciennes.
Voilà.
Au revoir.
Au revoir.
Alors, c'était le géologue et préhistorien Jacques Colina Girard du Conseil national de la recherche scientifique en France. Ce qui nous amène tranquillement au petit journal de la science.
Les Européens viennent de mettre au point un nouveau pyjama pour bébé qui contribue à prévenir la mort subite du nourrisson. Le pyjama, baptisé le Mama Goose, contrôle de façon continue le sommeil de l'enfant et fait retentir une alarme dès les premiers signes annonçant un risque de mort subite du nourrisson. 5 capteurs spéciaux intégrés dans le pyjama sont placés à la hauteur des poumons et du ventre afin de contrôler le pouls et la respiration du bébé. Le Mama Goose a été mis au point grâce à des développements technologiques réalisés dans le cadre du programme de transfert de technologie de l'Agence spatiale européenne. Les prototypes du pyjama font actuellement l'objet de tests à grande échelle.
Pourquoi les terroristes ont-ils frappé le World Trade Center un 11 septembre? Parce que September 11, c'est 911, le numéro d'urgence. Parce que 9 plus 1 égale 11. Parce que ce jour-là, c'était le 254e jour de l'année et que 2 plus 5 plus 4 font 11, naturellement. Les courriels à ce point insignifiants